Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
C'est sans doute injuste, mais on associe rarement philosophie et grosse poilade. Quoique je vous prouverai le contraire tout à l'heure avec Michel Leb. Mais reconnaissons que c'est certainement pas lui qui me contredira. Stéphane Bern nous raconte Arthur Schopenhauer. Oh les cœurs.
C'est vrai qu'il n'y a pas de philosophie plus noire et plus désabusée que la sienne. Sur le papier pourtant, Arthur Schopenhauer naît au moment idéal pour connaître une existence riche d'expériences. Oui, il voit le jour en 1788 à Danzig, en Prusse. Autrement dit, sa vie commence à la charnière entre le 18e et le 19e siècle, dans une Europe dont les équilibres vont être profondément bouleversés par la Révolution française et les guerres napoléoniennes. Arthur grandit entre sa mère Johanna, élevée dans la plus grande tradition de la culture classique, et son père Heinrich, de 20 ans plus vieux que sa femme. Un commerçant qui arpente toute l'Europe pour faire des affaires. Et il y a déjà là une déchirure. Plus Arthur grandit, plus il s'intéresse aux arts et à la philosophie, alors que son père n'a qu'une idée en tête, en faire son héritier, un grand négociant européen. C'est même à cette ambition que Schopenhauer doit son prénom, Arthur, qui a l'avantage de se prononcer à peu près de la même façon dans toutes les langues, Arthur. Il va falloir un drame pour résoudre le problème. En 1806, le père d'Arthur meurt noyé sans qu'on sache bien s'il s'agit d'un accident ou d'un suicide. Pour Arthur, 18 ans à peine, le choc est rude. Mais il y retrouve aussi une forme de liberté. Il abandonne le commerce pour les lettres et la philosophie à Weimar, puis à Berlin et enfin à Iéna où il publie sa thèse en 1813 de la quadruple racine du principe de raison suffisante. Un ouvrage que je ne saurais trop vous recommander, Mathieu. Vous savez, ça se lit comme un poulard.
Ah oui, comme un Marc Lévy.
Plus sérieusement, l'année suivante, Arthur coupe les ponts avec sa mère et part s'installer seul à Dresde pour y travailler sur sa grande œuvre « Le monde comme volonté et comme représentation » publiée en 1819. C'est un échec absolu, mais force est de reconnaître que ce n'est pas l'ouvrage le plus optimiste du monde, mais bien le plus désabusé. « La race humaine, écrit Schopenhauer, est une fois pour toutes et par nature vouée à la souffrance et à la ruine. Pourquoi ? Ben c'est bien simple, parce que tout sur Terre est une illusion et qu'à l'échelle de l'individu, rien ne justifie le moindre espoir. La seule chose de certaine, c'est que l'homme, que l'instrument d'une volonté désincarnée, celle de la vie, de la nature, qui n'a qu'un but, se renouveler. Et pour y réussir, cette volonté, cette puissance naturelle, crée une illusion constante. L'amour, la passion, même le sexe, pour Schopenhauer, ne sont jamais qu'une ruse, un faux-nez qui vient déguiser le plus banal des instincts de reproduction. Oui, le même que chez la grenouille ou le cochon. En fait, c'est pire. Pour notre espèce, il y a un prix à payer. Pourquoi ? Parce que, pour ne rien arranger, l'homme a le malheur d'avoir des ambitions, une envie d'absolu et de grandeur. Mais il n'y a pas de grandeur, pas d'absolu, pas de Dieu, juste l'absurdité de l'existence. Vivre, c'est plonger dans une insatisfaction permanente et osciller entre la souffrance et l'ennui. Bon, la seule solution pour Schopenhauer, ce n'est même pas l'art, même si la beauté peut consoler un bref instant l'homme de sa triste condition. Évidemment, ce n'est pas le genre de discours qui fait sensation dans les soirées de Berlin ou de Francfort, mais surtout ce pessimisme n'est pas du tout dans l'air du temps. La première moitié du 19e siècle, c'est celle des révolutions et du renversement des ordres établis. L'histoire est en marche, mais Schopenhauer répète à l'envi qu'elle n'a aucun intérêt. L'histoire, pour lui, n'est que le long rêve, le songe lourd et confus de l'humanité. Et comme Schopenhauer ne se prend pas tout à fait pour n'importe qui, et qu'il a quand même un certain goût du sarcasme et de la provocation, il décide à 32 ans seulement de s'attaquer à la star absolue de la philosophie européenne, son aîné Georg Friedrich Hegel, le grand maître de l'université de Berlin, le génie de la philosophie universitaire, de la philosophie allemande, peut-être de la philosophie tout court. À l'université de Berlin, Hegel affirme exactement le contraire de Schopenhauer dans ses cours. Pour lui, il y a une raison à l'œuvre dans l'histoire, un but. Non seulement Schopenhauer décide de se confronter à Hegel, qui est à ses yeux un charlatan plat, sans esprit, répugnant et ignorant, dont la pensée n'est qu'une colossale mystification, mais il choisit de donner son cours exactement les mêmes jours, aux mêmes heures que son concurrent. Un cours qu'il annonce modestement. Écoutez plutôt. Arthur Schopenhauer exposera toute la philosophie, c'est-à-dire la théorie de l'essence de l'univers et celle de l'esprit humain. Et là encore, c'est un échec. Alors que le moindre cours de Hegel attire 200 étudiants, Schopenhauer peine à rassembler 5 personnes très exactement au premier semestre et 0 au second. Bon, le coup est rude. Il a beau demander à ses quelques amis de surveiller les endroits où l'on parle de lui dans les livres, les journaux, les revues littéraires, rien ne se dit. Schopenhauer, qui avait déjà, vous l'avez compris, un certain don pour le pessimisme, tombe malade, dans la dépression probablement, et dans une forme d'isolement qui va durer 30 ans. Dès 1823, Schopenhauer vit seul à Francfort en rentier célibataire. Il joue de la flûte le matin, promène son chien l'après-midi, travaille et se baigne une fois par jour, peu importe la saison, dans la rivière locale, le Main. Et c'est tout. Sa misanthropie atteint des sommets, son écriture devient de plus en plus sarcastique. Pour lui, personne n'a rien compris à son génie et il n'attend rien d'un public qu'il résume à une foule de singes. Ce qu'il attend, c'est l'après. Il reste convaincu que la postérité saura lui accorder le mérite qui lui revient. C'est un peu paradoxal, mais il a raison. Schopenhauer va bel et bien connaître la gloire. Et elle ne sera pas seulement posthume. Vers 1850, le pessimisme caustique de Schopenhauer commence à attirer le public. Et son influence n'arrête pas de grandir. On le lit, on le réédite, on le commente, on l'étudie. Même si son influence ne sera jamais aussi puissante qu'au début du XXe siècle, chez Proust, Maupassant, Kandinsky ou chez Kafka, il peut voir monter cette estime pendant les 10 dernières années de sa vie, jusqu'en 1860. Vous croyez que ça le rendait heureux? Bah, pas du tout. Schopenhauer se compare alors à un technicien de théâtre, un de ses ouvriers qui traîne encore sur le plateau quelques instants avant le début de la pièce. Il écrit « Je suis un attardé, un survivant, alors qu'on donne déjà la comédie de ma gloire ». Le 21 septembre 1860, Schopenhauer quitte la scène sur un dernier acte à son image. Dans son testament, il lègue la plupart de ses biens à son chien, un caniche prénommé Atma. Pour le plaisir, on citera en guise d'épitaphe une de ses dernières remarques aussi grinçantes que lui. « Que bientôt les vers doivent ronger mon corps, c'est une pensée que je puis supporter. Mais que les professeurs rongent ma philosophie, cela me donne le frisson. »
Europe 1, historiquement vôtre.